Donc le message que je vais vous apporter ce matin, je vous l'ai un peu introduit tout à l'heure, autour de ce verset de Romains 15, 13, qu'on va parcourir ensemble, qu'on va décortiquer, qu'on va méditer, parce qu'il y a des vérités profondes. Vous savez que depuis plusieurs semaines, on avance ensemble dans cette série que le Saint-Esprit m'a inspirée et que je crois qu'il veut continuer à utiliser, et c'est la joie. Il y a beaucoup de raisons de se réjouir quand on entend ce qu'on a entendu ce matin, quand les bouches se sont ouvertes et que les choses ont été dites, témoignées, proclamées, et c'est merveilleux. Et donc on avait commencé avec Jésus dans Jean 16 qui nous disait que la joie que nous avons d'avoir rencontré Jésus, personne ne pouvait nous l'enlever. Ça, c'est une première vérité qu'on avait proclamée. Parce que oui, cette joie, elle naît de la présence du Christ, et que malgré la souffrance, malgré les tempêtes qu'on a chantées, malgré le monde et ce qui peut nous donner comme mauvaise influence, eh bien, la présence du Christ, elle est là, elle demeure, et cette joie demeure aussi. Et puis, on avait continué avec Romains 8, souvenez-vous, on avait découvert que la joie de Christ, en fait, elle était enracinée dans cette œuvre de l'Esprit-Saint, dans cette victoire de Christ, et que rien ne pouvait nous séparer de l'amour de Dieu, avec dans ces derniers versets de Romains 8 qui sont puissants et qui nous fortifient et qui nous encouragent et qui nous disent que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Et puis on a vu qu'on pouvait s'approprier cette joie. D'abord la joie du salut. Je fais un petit rappel, hein, comme ça on se remet un petit peu dans le bain et puis on continue. La joie du salut, parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous disait l'apôtre Paul dans Romains 8. La joie de l'adoption, parce que ce n'est pas un esprit de servitude qu'on a reçu, mais c'est un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Et puis aussi la joie de croire, la joie de la foi, car nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis enfin, la joie de la victoire, parce que en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et aujourd'hui, le Seigneur, il nous conduit un pas plus loin. Après la joie, après la victoire, il nous amène à l'espérance. Parce qu'il y a une vérité essentielle qu'on va proclamer ensemble ce matin, c'est que la joie et l'espérance, elles marchent ensemble. Comme la joie et la paix d'ailleurs. Parce qu'on ne peut pas avoir une joie durable, je pense, si on n'a pas une espérance qui est solide. Notre joie, elle ne peut pas osciller comme ça, ça ne peut pas être du courant alternatif. Ma prière, c'est qu'elle soit continue, que ce soit du courant continu. Ça te parle ça, Jean-Pierre, courant continu, le courant alternatif. Monsieur l'électricien. Mais cette espérance véritable, elle doit toujours nous produire une joie profonde. Et c'est pourquoi Paul, il prie dans Romains 15, 13, parce que c'est une prière finalement ce verset, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix. Alors, ce n'est pas un vœu qui est naïf, hein, ce n'est pas quelque chose qui est symbolique, c'est une vraie déclaration spirituelle. Et j'aimerais vraiment qu'on se l'approprie et qu'on soit capable de faire en sorte que ça s'enracine en nous et surtout de noter que cette prière, elle est vraiment enracinée dans la puissance de Dieu. Et j'aimerais ouvrir ce verset ce matin comme si c'était une source. Comme si c'était une source et puis qu'on laisse vraiment couler la vie de l'Esprit dans nos cœurs. Parce que oui, on a besoin de cette joie. L'Église a besoin de la joie. Individuellement, on a besoin de la joie. Mais on a aussi besoin d'espérance. Et Paul, il dit qu'il veut nous remplir de toute joie et de toute paix, et il veut qu'on déborde d'espérance. Il veut faire tout ça en même temps, Dieu. Et donc, le Dieu de l'espérance, je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur les 4-5 premiers mots, le Dieu de l'espérance. Paul dit, le Dieu de l'espérance, il ne dit pas que Dieu vous donne un peu d'espérance. Il dit que Dieu, c'est le Dieu de l'espérance. Il y a une question d'identité, là. Et d'ailleurs, sauf si je fais erreur, mais j'ai fait un peu de recherche et je ne pense pas. C'est la seule fois dans la Bible où il est nommé comme ça, le Dieu de l'espérance. C'est le Dieu de miséricorde, le Dieu de paix, le Dieu fidèle. Toutes ces caractéristiques de Dieu qu'on connaît, mais le Dieu de l'espérance, ça n'apparaît que dans ce passage-là. Donc c'est le seul endroit dans la Bible où ce titre apparaît. Et c'est comme si Paul il voulait nous dire tu veux comprendre la joie, regarde Dieu. Tu veux comprendre l'espérance, contemple Dieu. Dieu est espérance et il est le Dieu de l'espérance. Et c'est pour ça que ce n'est pas qu'une émotion, ce n'est pas simplement que ouais, espoir, espérance, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas qu'un souhait. C'est quelque chose qui est profondément ancré dans l'identité de Dieu et c'est quelque chose qui est au fond de son cœur. Parce qu'en fait, c'est sa nature. Dieu est un Dieu d'espérance. Et on le voit dans toute la parole, finalement. Est-ce que vous pensez que Dieu a déjà connu le désespoir dans la Bible, quand on lit la Bible? Ben non. En fait, Dieu, il n'a jamais dit « je ne sais pas quoi faire, c'est trop tard, c'est perdu ». Il n'a jamais dit « il n'y a pas d'issue, on est dans une voie bloquée ». Non. Dans les premières ténèbres, quand on lit la Bible dans Genèse 1-3, Dieu il a déjà commencé en étant Dieu d'espérance. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Les premières ténèbres ont été éclairées par la lumière de Dieu. Donc il commence déjà là en étant Dieu d'espérance. Dans l'arche de Noé, c'est pareil, là où tout semble englouti, Dieu dit « je me souviendrai de mon alliance » dans Genèse 9-15. Devant la mer Rouge, quand tout semblait impossible, Dieu dit « pourquoi cries-tu vers moi ? Avance !» Dans Ézéchiel, au milieu d'une vallée qui est remplie d'ossements desséchés, Dieu dit « ses os reprendront vie ». Dieu, c'est profondément le Dieu de l'espérance. Et si Dieu est le Dieu de l'espérance, eh bien, il veut que son peuple, il soit aussi le peuple de l'espérance. Et son peuple, c'est nous, c'est l'Église. Il veut qu'on soit aussi ce peuple. Parce que c'est simple, si Dieu est notre Père, et Fatima l'a proclamé, nous sommes ses enfants. Nous sommes ses fils et nous sommes ses filles, et donc on doit ressembler à notre Père. Mais parfois, on ne va pas se mentir, c'est vrai, nous aussi on peut être contaminés par le climat de ce monde, par la négativité, par le pessimisme, le découragement, etc. Mais Paul dit dans un autre chapitre de Romains, dans 12-12, « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. » Réjouissez-vous dans l'espérance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant là, c'est qu'avant d'avoir le résultat, avant de sentir qu'il y a un changement dans notre vie, qu'on est en train de prier, qu'on est en train de demander à Dieu, eh bien en fait, on doit déjà se réjouir. Avant que la circonstance elle vienne s'améliorer, on doit déjà être capable de se réjouir, de rendre gloire à Dieu et de placer notre joie dans celui qui ne change pas, parce que lui, il ne change pas. Nous, on change. Nous, on est en courant alternatif souvent. Mais Dieu, lui, non. C'est ça l'identité du Dieu de l'espérance. Il est déjà 11h28. Hein. Mais c'est pas grave. Le Saint-Esprit va nous donner les bonnes paroles pour que ça vienne percuter. On revient sur Romains 15-13, s'il te plaît, Romain. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Vous remplisse de toute joie. Donc Paul, il dit, on l'a déjà dit, toute joie. Il ne dit pas un peu de joie, il ne dit pas c'est juste une petite dose, un petit bonus pour t'aider à tenir. Non, il dit toute joie. La joie, elle n'est pas limitée, elle est complète. C'est la joie du royaume et c'est la joie de Jésus. Et ici, Paul, il utilise un mot. Quand il dit « vous remplisse ». Dans le grec, c'est « pléro ». Pléro, ça signifie « remplir jusqu'au débordement ». Et c'est le même mot pour « accomplir ». C'est une image. Quand on dit que l'accomplissement doit arriver, c'est le même mot. c'est pléro. Et cette image, c'est de dire que la coupe, elle doit être remplie jusqu'à ce que ça coule par-dessus, jusqu'à ce que ça déborde. Cette notion d'accomplissement, c'est cette notion, pléro aussi, de rendre parfait. C'est cette notion qui nous parle de plénitude, la plénitude de Christ. Pas qu'un peu, pas qu'un petit bonus, pas qu'une petite option, mais c'est complet, c'est parfait. Et ce n'est pas anodin. Pourquoi Dieu il veut nous remplir? Pourquoi Dieu veut nous remplir, à votre avis, de cette joie? Pourquoi il ne veut pas que le verre soit à moitié vide? Il y a cette notion, ouais, mais que si ton cœur il est à moitié vide ou ton verre il est à moitié vide, et qu'il y a pas, et que ce n'est pas la joie, et que ce n'est pas la paix, et que ce n'est pas l'espérance du Seigneur, ben il va être rempli d'autre chose. Il va être rempli de tristesse, il va être rempli de doute, il va être rempli de peur, il va être rempli peut-être d'amertume, il va être rempli de distraction. Et dans le monde dans lequel on vit, la distraction, elle est facile à aller chercher, et elle est facile et facilement elle vient nous happer. Donc on a besoin de ça, d'être rempli. Parce que Jésus lui-même le rappelle dans Jésus 15 au verset 11, « Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète ou parfaite » dans d'autres traductions. Et là encore, c'est le mot « pléro ». Donc la joie, c'est pas cette émotion, c'est vraiment la marque de la présence du Christ en nous. Parce que cette joie, si elle n'est pas en nous complètement et qu'il y a d'autres choses qui rentrent et qui ne sont pas la gloire de Dieu, bah on va être un peu désarmé. Et on sait que, on l'avait dit aussi, la joie c'est une arme spirituelle. La joie de l'Éternel est votre force, nous dit Néhémie. La joie de l'Éternel est votre force. Donc la joie, c'est pas cette décoration spirituelle, c'est vraiment cette force de combat. C'est une résistance intérieure. On résiste parce qu'on a la joie de Christ en nous. Et l'ennemi, il n'aime pas ça. Mais si on garde la joie et qu'elle est pleinement en nous, qu'il y a le pléroma de Dieu, la plénitude de Dieu en nous, bah l'ennemi, il va être complètement désarmé. Pour ça qu'il n'aime pas un chrétien joyeux, en fait. Parce que quand un chrétien il est joyeux, en fait, l'ennemi, ça, il trouve ça dangereux. Hein. Parce que le chrétien joyeux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va persévérer. Il va aimer et son Dieu et son prochain beaucoup plus facilement. Il va pardonner plus facilement. Il va servir avec ardeur, que ce soit à l'église ou dans le monde. Il va évangéliser assez spontanément. Gloire à Dieu pour ton collègue, Jessica. C'est parce que tu avais cette joie du Christ en toi que les choses sont sorties. Et puis, le chrétien qui a cette joie en lui, bah, il n'est pas manipulable par ses émotions. Parce que les émotions, elles sont dangereuses quand elles ne sont pas contrôlées. Donc c'est pour ça que la stratégie de l'ennemi, finalement, c'est à ça qu'il faut qu'on soit vigilant, c'est toujours la même, c'est d'essayer de voler cette joie qu'on a en nous. Ce n'est pas la santé, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas, les relations que l'ennemi cherche à voler en premier, c'est la joie. Parce qu'il sait que si la joie, en fait, elle s'affaiblit, si elle tombe, bah, tout le reste s'affaiblit. En fait, c'est en cascade, il y a un effet domino. Donc le Dieu de l'espérance veut te remplir de toute joie. Et on revient sur Romains 15, 13, s'il te plaît, mon cher Romain. Et de toute paix dans la foi. Donc la paix. Ça va toujours ensemble dans les Écritures, vous avez remarqué. La joie et la paix. Dans Galates 5, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Dans Romains 14, 17 aussi, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 55, 12, il est aussi dit, oui, vous sortirez avec joie, je ne te l'ai pas mis celui-là, je crois, et vous serez conduits en paix. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et pourquoi Dieu met toujours la joie et la paix ensemble ? Pourquoi ça va toujours ensemble ? Parce que, on le disait tout à l'heure, la joie sans la paix, ben, elle n'est pas durable. Et puis la paix sans la joie, c'est pas complet. Et Dieu veut que ce soit complet. Dieu veut la plénitude, il veut le pléro pour nous. Le pléroma de Dieu, la plénitude. Et si on refait un petit peu de grec, la paix, c'est erénée, et ça signifie harmonie intérieure, repos profond, stabilité émotionnelle. C'est le sens profond de ce mot. Donc c'est le contraire de la confusion, c'est le contraire du stress, de l'inquiétude, c'est le contraire du chaos intérieur qu'on peut parfois avoir. Et Paul dit que Dieu nous donne toute paix. C'est comme toute joie. Ce n'est pas une paix qui est partielle, c'est une paix qui est complète. Et il dit, dans la foi, ce n'est pas dans la raison, ce n'est pas dans les calculs, ce n'est pas dans nos raisonnements, ce n'est pas dans nos têtes. Il n'y a pas de garantie humaine à la joie et à la paix. Ça n'existe pas, ça. Je vous rappelle le petit témoignage que je vous ai donné en introduction sur mon chef. Tu peux faire tout ce que tu veux au niveau humain, si tu n'es pas ancré en Christ, si tu n'es pas ancré dans la foi, en ce Dieu qui est la source de toute joie et de toute paix, tu n'y arrives pas. C'est quand je m'abandonne, c'est quand je fais confiance à Dieu. C'est quand je repose mon âme sur Dieu. Écoutez encore ce que nous dit Ésaïe au chapitre 26, verset 3. À celui dont les pensées se tournent vers toi, tu assures la paix complète, car il se confie en toi. J'aime quand on change de version parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau. À celui qui est ferme dans ses intentions, donc celui qui se tourne vers toi, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Merci Seigneur pour ces vérités si profondes de ta parole. Je suis désolé, il y a un peu d'aller-retour, mon cher Romain. On revient à Romains 15, 13. Afin que vous débordiez d'espérance. Dieu, il ne veut pas seulement te remplir. Dieu, il veut te faire déborder. S'il te remplit de joie et s'il te remplit de paix, c'est pour un but précis. C'est pour que tu débordes d'espérance. D'abord, tu es rempli et ensuite, tu débordes. Le chrétien, il ne doit pas simplement avoir de l'espérance. Il doit en déborder. Donc l'espérance, bibliquement, ce n'est pas un souhait, ce n'est pas l'espoir, comme je disais tout à l'heure. C'est une conviction qui est vivante. C'est une conviction qui est vivante. C'est une certitude qui est ancrée en Dieu. Et c'est l'attente confiante du plan de Dieu. On attend avec confiance, avec foi, que Dieu agisse. L'espérance, ce n'est pas... Comme on l'entend souvent dans le monde, ben j'espère que demain ça ira mieux. Même si c'est à la même racine, espère et espérance, c'est pas ça. C'est pas j'espère que demain ça ira mieux. C'est je sais que Dieu accomplira ce qu'il a promis. C'est ça l'appel à foi dans la foi et l'espérance qui arrive derrière. Je sais que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Et c'est comme ça que je me positionne. Parce que ce chrétien qui déborde d'espérance, et ben oui, il devient contagieux. T'as raison, il devient contagieux. Paul dit dans Colossiens 1:27, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, c'est pas un concept, l'espérance. C'est Christ en nous. Espérance de la gloire. C'est une personne, l'espérance. Le Dieu d'espérance, il est nommé dans ce verset. Et quand Christ, eh ben, il vit pleinement en quelqu'un, ben, il devient visible. Et c'est ça notre espérance aussi. C'est que dans notre quotidien, notre jour à jour, nos activités, on puisse se dire, Seigneur, oui, Je veux que tu me minimises. Je veux être le plus petit possible pour que toi, tu sois grand en moi et pour que les autres te voient. C'est un travail, ça, hein, de se minimiser, de se faire tout petit pour que Christ en moi soit vu comme l'espérance de la gloire. Et ma prière ce matin, ce serait vraiment que une seule personne remplie de cette espérance, elle puisse en contaminer des dizaines d'autres. Et on y arrive. Moi, je suis convaincu, j'ai cette espérance chevillée au corps, que on y arrive. Toutes ces personnes qu'on rencontre, Isabelle, tu nous as témoigné, Jessica, tu nous l'as témoigné. Je l'ai témoigné aussi, je suis sûr que vous avez aussi des témoignages de votre côté. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ces choses-là vont arriver. Qu'une seule personne remplie d'espérance puisse en réveiller des dizaines d'autres. Par la puissance du Saint-Esprit. Paul, il aurait pu terminer comme ça, hein, que Dieu vous remplisse de joie et de paix. Et c'était très bien. Il vient parler de la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il veut qu'on comprenne un truc essentiel. Et je le répète encore, mais il paraît que l'art d'enseigner, c'est l'art de la répétition. Alors je répète. Je répète. La joie, elle ne vient pas de toi. L'appel ne vient pas de toi. L'espérance, elle ne vient pas de toi. Tu ne peux pas les produire, tu ne peux pas les fabriquer, tu ne peux même pas les mériter, même si tu fais tout ce qu'il faut. Elles viennent du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit qui vient remplir. C'est l'Esprit qui vient consolider ces choses en nous. C'est l'Esprit qui vient renouveler, qui vient fortifier. Et c'est l'Esprit qui va faire déborder. Et on le voit plein de fois, ça, dans la parole aussi. Dans Acte 13, au verset 52, il est dit que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Ça va toujours ensemble. Ça va toujours ensemble. Alors tout ça, ça se passait à une certaine époque, on vit maintenant dans la nôtre, mais c'est toujours d'actualité. Et on peut toujours demander à Dieu de nous remplir vraiment pour vivre ces choses que les apôtres vivaient dans ce temps-là. Il faut qu'on arrête de survivre spirituellement. Beaucoup survivent spirituellement. Alors qu'on doit demander à être tout le temps rempli, un remplissage qui est frais. Un remplissage qui est sain, une saturation de joie, une saturation de paix, une saturation d'espérance. Parce que si on pratique ça, presque comme une discipline, parce que faut avoir la force quand même de se lever le matin quand on a des tas de défis, des tas de difficultés, quand on est dans la maladie, quand on est dans des difficultés relationnelles, quand on a des choses qui nous pèsent au quotidien. C'est compliqué de se discipliner et de se dire « Je pratique l'espérance. » Mais non. Je veux lire les promesses de Dieu chaque matin et je veux m'en nourrir et je veux que ça me porte. Je veux déclarer la parole de Dieu dans tous mes combats. Dieu dit qu'il est fidèle. Dieu dit qu'il est le Dieu d'espérance. Dieu dit qu'il est le Dieu de la miséricorde. Donc ça, je me l'approprie. Et je veux déclarer cette parole dans mes combats. Parce que si je suis joyeux et que je suis plein d'espérance, bah ça va parler autour de moi. Ça va parler, même si les gens ne vous le disent pas, même s'ils ne le verbalisent pas, même si vous avez l'impression qu'ils se moquent de vous. La parole de Dieu ne revient jamais sans effet. Il y aura quand même quelque chose de semé, il y aura quand même quelque chose de profond qui viendra s'ancrer. Parler l'espérance autour de soi et puis refuser le langage du désespoir. C'est tellement facile aujourd'hui de dire « c'est comme ça, on va dans le mur, et les politiques qui sont pourries, et l'inflation c'est ci, et la situation économique c'est ça, etc. etc. » Il y a tellement de choses qui viennent nous polluer, mais l'espérance elle est incompatible avec ce fatalisme. C'est incompatible. Et il y a même un fatalisme chrétien parfois, hein, franchement. Hein. Mais ça ne doit pas exister. Ça ne doit pas exister. La joie et le Saint-Esprit vont ensemble. Et on ne doit pas laisser l'ennemi voler cette joie. On ne doit pas laisser le monde voler cette paix. Voilà, c'est des vraies armes spirituelles qu'on doit vraiment manipuler. Alors je veux que ce matin on regarde à Dieu. Je ne veux pas qu'on regarde aux circonstances. Parce que finalement, c'est ce qu'on regarde qui nous nourrit. C'est ce qui regarde et ce qui vient à l'intérieur qui nous nourrit. Et si on regarde au monde, on va être rempli d'inquiétude, ça c'est sûr. Mais si on regarde à Christ, si on regarde à sa parole, si on la proclame, si par la foi, on se dit qu'elle est pleine de paix, pleine de joie, pleine d'espérance, et bien finalement on sera rempli d'espérance. Donc il faut laisser le Saint-Esprit nous remplir quotidiennement, et pas seulement le dimanche. Pas seulement le dimanche, chaque jour, Saint-Esprit, remplis-moi de ta paix, remplis-moi de ta joie, remplis-moi de ton espérance. Je veux vivre ça. Je veux vivre ça dans ma famille, je veux vivre ça dans mon travail, je veux vivre ça à l'église. Je veux être rempli. Je veux être rempli et je veux rayonner. Et je veux te remercier, je veux être dans la gratitude, Seigneur. Parce que tu fais ces choses. Toi, tu es toujours là. C'est toujours à moi de faire le premier pas. Si je refuse de faire ce premier pas, je refuse quelque part d'allumer l'espérance. Alors, je veux vraiment l'allumer, l'espérance. Je ne veux pas l'étouffer. Je crois, frères et sœurs, que le Dieu d'espérance, il est ici. Il est ici et maintenant. Est-ce que vous le croyez, ça ? Il est ici et maintenant. Il veut nous remplir. Il veut nous renouveler. Il veut même nous faire déborder. Certaines personnes sont sûrement venues ce matin avec leurs défis. C'est vrai. Avec des problèmes de santé, avec des inquiétudes, avec des combats, avec des questions, avec de la fatigue, avec des déceptions. Mais j'aimerais qu'on ferme nos yeux un instant et qu'on pense à ce Dieu de l'espérance et qu'on lui parle. Et qu'on lui parle vraiment. Mais qu'on soit capable de l'écouter aussi. Parce que Dieu dit ce matin, je veux te remplir. Dieu dit ce matin, je veux que tu vives ma joie. Dieu dit ce matin, je veux que tu vives mon espérance. Et je veux que tu repartes différent de comme tu es venu. Tu es venu avec ta maladie. Dieu dit, je suis le Dieu qui guérit. Je pose ma main sur toi maintenant. Je suis le Dieu qui restaure. Je suis le Dieu qui ressuscite. Et je suis ce Dieu qui veut agir en toi et qui veut te remplir par la foi de ce à quoi tu aspires. Crois-le, et tu verras ces choses s'accomplir. Oui, parce que tu es le Dieu de l'espérance, parce que tu es ce Dieu qui ne change pas, parce que tu es ce Dieu qui donne la joie, parce que tu es ce Dieu qui donne la paix, tu es ce Dieu qui donne la vie. Et on veut s'ouvrir à toi, Seigneur, ce matin. Et on veut t'offrir nos cœurs. Ces cœurs de chair que tu peux toi-même manipuler, Seigneur. Ces cœurs de chair.
Seigneur, on veut déposer à tes pieds tous nos fardeaux, Seigneur. Tous nos fardeaux. Et on veut que ton Saint-Esprit agisse. Agisse avec puissance. Simplement dans cette paix. Parce que ce n'est pas dans l'agitation que tu agis, Seigneur. C'est dans ce repos. Dans le repos. Et dans la paix. Et Seigneur, tu vas faire monter une joie, Seigneur. Parce que tu remplis. Parce que tu remplis. Parce que tu remplis. Jusqu'à ce que ça déborde. Jusqu'à ce que ça déborde. On ne veut rien laisser entre toi, Seigneur, entre ton Esprit Saint et notre esprit. On ne veut rien laisser. Aucune place. Aucune place à l'ennemi. Aucune œuvre de la chair. Seulement le fruit de l'esprit. On veut juste laisser la paix. On veut juste laisser la joie. On veut juste laisser l'amour. On veut juste, Seigneur, que ce soit toi. Toi et nous. Aucune place pour l'ennemi. Et tu nous as donné cette autorité de le terrasser, Seigneur. Aucune place. Nous prenons autorité, Seigneur, sur tout fardeau, sur tout ce qui veut voler notre joie ce matin, sur tout ce qui veut voler notre paix et tout ce qui veut voler notre espérance. Et Seigneur, toi, tu agis. Toi, tu agis parce que nous avons un cœur disposé à t'accueillir et un cœur disposé à te laisser faire cette œuvre en nous, Seigneur. Que ta paix abonde, que ta joie abonde et que ça surabonde, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Déborde sur nous, Seigneur. Afin que nous puissions déborder aussi, déborder vers ce monde qui n'a aucune espérance, vers ce monde qui a peut-être un espoir, ce monde qui espère des choses. Mais Seigneur, toi, tu es l'espérance vivante. Tu es le Dieu d'espérance en qui nous nous confions. Et nous savons, Seigneur, tu restes. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux que tu as appelés selon ton dessein. Et Seigneur, nous sommes ceux que tu as appelés selon ton dessein. Tu as un projet pour nous. Non pas un projet de malheur, mais des projets d'espérance. Des projets d'espérance. Alors Seigneur, réalise cette œuvre en nous. Réalise cette œuvre en nous. Transforme-nous et fais de ton Église ce peuple qui rayonne dans ce monde sans espérance. Au nom de Jésus.